Extrait d'Hybride bleu, lu par l'auteur. Retour à la caisse départ. Mon retour au sein de la meute était pire que je ne m'étais imaginé. Ce n'est pas que je m'attendais à un accueil fracassant tout en fanfare, banderole de bienvenue et tape amicale dans le dos. Mais, au minimum, celui chaleureux de ma mère, heureuse de me voir et de me serrer dans ses bras. Je comprenais qu'ils soient tous fâchés. J'étais partie plus de 12 ans auparavant sans donner de nouvelles depuis. Les seuls avec qui je gardais le contact en cachette étaient ma mère et Saï. Ma fugue avait fatalement blessé mon père, effrayé ma mère sur le moment, déstabilisé mon frère et mes amis, mis à mal le bêta de la meute de l'époque. Je n'étais pas peu fière de mon exploit. Du haut de mes tout juste 18 ans, je lui avais glissé entre les doigts alors qu'il s'enorgueillissait depuis des années d'être le bêta le plus efficace de la meute d'Ibériane. Je me souviens du plan parfait que j'avais façonné en urgence pour lui échapper et pour sauver ma vie, tout simplement. Bon, mon père, l'alpha de la meute, avait dans sa manche un atout précieux que j'avais mal apprécié et qui s'appelait Sibyl Elgaïd. Dites « Sai » pour les intimes. Je précise, parce que sinon, pour avoir été témoin d'un de ces accès d'humeur « contrôlés », comme elle me le rappelle souvent quand je reviens sur cette histoire pour la charrier, elle vous démontra la tête. Donc, mon évasion n'avait pas été aussi parfaite qu'escomptée. Forcément, malgré toutes mes précautions et mon inventivité, tous mes plans et mes calculs, elle m'avait retrouvée. Je lui avais donné du fil à retordre, sans me vanter. Mais, elle m'avait retrouvée. De prime abord, elle paraît toute chétive et inoffensive. Mais c'est très trompeur. Elle est tout de même la lieutenant la plus flippante de mon père. Si j'avais su, au moment où je fomentais mon coup, quel était ce qu'on appelle vulgairement un nez, c'est-à-dire une des meilleures pisteuses parmi les loups, j'aurais probablement abordé les choses autrement. Mais en ce temps-là, nous n'avions pas encore sympathisé, et puis j'étais un enfant qui se désespérait d'avoir des babysitters sur le dos. Depuis, notre amitié avait grandi et j'en affectionne chaque minute, chaque instant de complicité. Aussi, lorsqu'elle m'avait attrapée et capturée, littéralement, elle était sortie de nulle part et m'avait ficelée comme une saucisse prête à être déposée sur le grill, m'allongeant sur le lit de la chambre d'hôte que je louais pour préparer mon rapatriement. Donc, lorsqu'elle me rattrapa et me captura, pendant qu'elle emballait mes affaires, je négociais âprement avec elle, lui expliquant tant bien que mal que si elle me forçait à rentrer, je tenterais à nouveau ma chance. Je ne retournerais pas à Salt Lake City, de mon plein gré, et je la menaçais de lui faire vivre toutes les misères du monde en chemin si elle m'y obligeait. Je ne devais plus vivre au sein de ma meute. Je n'avais pas d'autre solution. Bien entendu, mes premières contestations n'avaient pas ébranlé ses convictions et mes menaces n'avaient porté aucun effet. Elle obéissait à l'alpha qui lui avait ordonné de me ramener manu militari à la maison. Sai n'aurait jamais trahi mon père. Elle lui avait prêté son serment d'allégeance. Rien ne remplaçait ou ne supplantait un tel serment. Je fus donc contraint de lui confier deux de mes trois secrets les plus intimes pour la faire plier en mon sens. Les seuls d'ailleurs, car je n'en taisais aucun autre, mais ces secrets orientaient souvent mes choix de vie. Sans ses aveux, je pense qu'elle m'aurait attrapé par la peau du cou ou assommé et jeté à l'arrière de son SUV, direction Salt Lake City, le fief de la meute, sans autre forme de procès. « Je ne retournerai pas là-bas » m'étais-je vigoureusement défendu, me débattant contre mes liens. « Tu ne comprends pas, je ne peux pas retourner là-bas » avais-je commencé par argumenter. « Ni toi, ni mon père ne pouvaient m'y obliger. » Je transpirais la peur, rien qu'à l'idée d'y remettre les pieds. À tel point que Sai s'arrêta de remplir mon sac de voyage et se focalisa entièrement sur moi. « Explique-toi » m'avait-elle intimé. « Qu'est-ce qui, ou quoi ?» t'effraie autant.
Sibyl, ne m'oblige pas à te le dire, l'avais-je supplié désespérée.
Mais, inébranlable, elle était restée assise sur ses positions. Ou je lui avouais, ou j'étais de retour à la case départ. Alors, en croisant les doigts pour qu'elle garde à jamais mes secrets, je lui racontais pourquoi je m'étais enfui pendant que, magnanime, elle me retirait mes liens. Je suis gaie, lui avais-je murmuré très bas, me préparant psychologiquement
à être immédiatement rejeté. Et alors ?
Et alors ?
Sa réponse m'avait laissé quelques secondes sans voix. Je m'attendais à tellement plus, et certainement pas à du plus positif. Mon aveu lui faisait ni chaud ni froid. Elle était restée de marbre. Moi qui croyais que tous les loups étaient homophobes. C'était un soulagement que d'apprendre que je m'étais trompée. Du moins, en partie. Comprenant que finalement cette seule raison ne suffirait pas à la dissuader, de me ramener, je dus entrer dans le détail de certains faits qui me donnaient, à cette époque, encore envie de vomir, rien que d'en parler. Pete m'a surpris la langue jouant avec les amygdales d'un de mes camarades de collège.
Et alors ?
Et alors ? Je la trouvais infernale, si stoïque, face à mon monde qui avait volé en éclats. Si rude, à insister sur une période de ma vie que je souhaitais oublier. Elle me mettait une pression d'enfer pour que je m'explique clairement, m'obligeant à crever l'abcès qui me rongeait de l'intérieur. Elle était consciente de la terreur que je ressentais et se montrait plus douce dans ses gestes. Mais elle ne lâchait rien et attendait, impassible, que je m'explique, que je rentre dans plus de détails, alors que j'aurais aimé ne plus jamais y penser. Tel le condamné avant le grand plongeon, je me lançais dans le vide, sans filet de sécurité, la voix vibrante d'émotions contenues. Il m'a menacé. Il m'a promis que s'il me voyait encore une fois dans une situation aussi dégueulasse, il arracherait la bite du PD et me la ferait avaler toute crue à la petite cuillère. En formulant mes mots, en répétant à voix haute à une autre personne ce qu'il m'avait dit, je réalisais toute la violence que son ultimatum contenait. Je réalisais que j'avais besoin de confier à quelqu'un ce que j'avais tu depuis plusieurs mois, par crainte, par manque de soutien, quitte, tant pis, à ne plus être cru comme je le pensais si fermement lors de ma fuite. La boîte de Pandore ouverte, je continue à lui raconter.
Cybèle, le lendemain, il a délibérément blessé Matthew. Il l'a mordu au mollet. Mordu ! C'est un malade, ce mec ! J'ai emmené mon ami aux urgences. Ses parents sont venus à l'hôpital. Pete lui a brisé les os. Ils ont dû l'amputer pour lui sauver la jambe. J'ai passé la journée aux urgences à attendre ces nouvelles. J'étais fou d'inquiétude et j'étais perdue.
Pourquoi n'es-tu pas allé voir ton père ? Quand je suis rentrée le soir à la maison, Pete m'attendait devant la porte. Il m'a menacé de lui arracher l'autre jambe si j'ouvrais la bouche. À table, je n'arrivais pas à cacher mes émotions. Comme j'étais bouleversée et que ma mère commençait à me poser des questions, Pete leur a balancé qu'il n'y avait rien de grave, que je pensais être gay et que c'était ce qui me perturbait. J'étais dévastée par son aplomb et sa froideur à mettre aussi facilement mon intimité sur le tapis. Ce n'était pas à lui d'en faire un étalage. Je n'avais pas forcément envie que mes parents l'apprennent de cette manière. Mais c'était trop tard. Le mal était fait et l'accident de Matthew est passé au second plan.
Comment a réagi ton père ?
Il m'a juste dit que ça passerait, que j'avais le droit de faire des expériences à mon âge.
Des expériences ! Comme si je pouvais changer ce que je suis. Il m'a blessée, peut-être pas intentionnellement, mais je me suis sentie trahie et incompris. Il avait l'air de prendre tout cela à la légère alors que j'étais dans tous mes états. J'avais le sentiment qu'il faisait peu de cas de ma personne. Son attention était rivée sur mon frère, le prochain alpha, à comparer, moi, j'étais encore insignifiant, trop jeune. Je ne savais plus quoi faire ni vers qui me tourner et Pete me surveillait de matin au soir pour m'intimider. Et cela marchait. J'étais réellement effrayée qu'il me collait aux fesses. Je grimaçais de mon choix de mots maladroits. S'il y avait une personne que je ne souhaitais pas voir collée à mes fesses, c'était bien ce mec.
L'alpha était au courant pour Matthew ?
Je ne pense pas, je n'en ai pas parlé. Je me suis sauvée avant que cela. M'étonnerait que Pete lui ait parlé.
Je vais me charger de Pete, mais toi tu rentres.
Tu me crois ?
La questionnai-je ahuri.
Pourquoi ne te croirais-je pas ?
Parce que je suis moi, lui répondis-je en me montrant du doigt.
Et Pete ? Ben, c'est Pete !
Continuai-je fataliste en haussant les épaules.
Je t'ai dit que je m'en occupais,
de lui, et que toi, tu rentrerais avec moi.
Rempli de doute, je secouai la tête.
Je ne crois pas que tu puisses détrôner le bêta. Tu es très forte, je le sais. Je t'ai déjà vu mettre plus d'un mastodonte au sol, mais nous parlons de Pete. Papa a confiance en lui, et personne ne remet en cause son autorité. Je le ferai. Un tel geste ne peut rester impuni, pas une telle bigoterie. Je te promets que je m'en occuperai personnellement. Mais toi, tu rentres.
Je ne peux pas. Je ne peux plus, lui avouai-je alors, crié dessus, exaspéré par son entêtement.
Explique. Que c'était énervant. Elle restait d'un calme olympien, m'arrachant une couche de silence après l'autre, alors que je bougeais et gesticulais dans tous les sens. J'en avais déjà suffisamment dit, mais cela ne satisfaisait toujours pas. Elle était déterminée à me ramener coûte que coûte. Alors, je lui lâchai la seconde bombe.
J'ai un autre souci.
Sandek raconte.
Cybèle, gamin, va falloir aller jusqu'au bout parce que pour l'instant, tu ne m'as pas convaincu une seule seconde.
Ok, nous allons régler la question de l'homophobie et des exactions de pète. Alors, quoi d'autre?
Je me mordis les lèvres jusqu'au sang, tergiversant sur ce que j'allais lui dévoiler et comment le lui annoncer.
Finalement, de guerre lasse, je décidai de lui montrer. C'était plus simple que de passer par des explications alambiquées.
Je vais te le montrer, mais promets-moi que tu ne me feras pas de mal.
Je prenais un gros risque. Ma vie était en jeu, même si sur l'instant, elle n'en avait pas conscience.
Bon sang, Ethan, je n'ai aucune raison pour commettre un tel geste.
Alors, accouche, nous n'avons pas tout notre temps, m'avait-elle lancé excédée.
J'usais de sa patience. Qu'aurais-je pu faire d'autre? Je ne pouvais plus reculer l'échéance. Un des miens allait savoir ce que j'étais devenue. Et pas n'importe laquelle. Un des lieutenants de la meute, la garde rapprochée de mon père, son exécutrice. Il me restait à prier très fort qu'elle ne tranche pas la gorge après ma petite démonstration. Je reculais de quelques pas, histoire de me donner un peu de champ libre et peut-être une option de me défendre au cas où, mais sans grand espoir. Puis, avec prudence, gardant toujours un œil sur elle, je me transformais devant elle. Pas en loup, comme nous l'aurions attendu. Après tout, nous étions des loups-garous. Non, je me transformais en elfe bleu, l'ennemi séculaire de ma race. Ce qui lâcha, à n'en pas douter, un blanc dans la conversation, une crispation de tous les traits de son visage et une tension dans tout son corps.